Bonjour Monsieur Val. Votre mission, si vous l'acceptez, est de détruire France Inter de la même manière que vous avez détruit Charlie Hebdo. Pour ce faire, vous pouvez employer tous les moyens qui vous semblent bons. Donner une émission à mes amis, BHL, Chérec, Thibault, ou bien même à Fiston Jeannot. Bien entendu, si vous ou l'un de vos collaborateurs était découvert, l'Élysée nierait toute implication dans la destruction du service public. C'était Chouchou de Paris 8e.
Oui, bonjour, c'est Alexis, un auditeur parisien qui est peut-être modeste et génial, mais en tout cas, j'en ai marre des auditeurs au milieu des émissions immodestes et parano. Vous avez lu ce que disait Philippe Ball, vous n'en avez pas marre de lui faire un procès stalinien. Enfin voilà, est-ce que l'un d'entre vous a déjà lu ce qu'il disait, ce qui se justifiait, ou même ce que disait Cavana ou Charb à propos de la persinée? Enfin bon, si Valls est le nouvel ennemi de l'extrême gauche, ben voilà, ça explique beaucoup de choses. Ça explique notamment pourquoi je quitte Besancenot et pourquoi je rejoins Cohn-Bendit. Voilà. Allez, eh ben là-dessus, ben, je vous souhaite quand même bon courage parce que j'aime bien votre émission, j'aime bien ce que vous dites, sauf quand vous êtes parano. Allez, bonne journée, c'était Alexis.
Bonjour Daniel, il est 15h51 et à 15h33 sur le site du Nouvel Observateur est paru un article qui s'appelle « Daniel Mermet souhaite la bienvenue à Val » et qui commente l'email que tu as envoyé à tous les AMG et qui se termine par cette petite phrase « Daniel Mermet avait pris fait et cause pour le dessinateur ciné dans le conflit qu'il a opposé il y a un an à Philippe Val. Le directeur de la rédaction Charlie Hebdo avait alors implicitement poussé Ciné au départ après la publication d'une de ses chroniques qu'il jugeait antisémite. » Alors voilà, on te savait déjà stalino-marxiste, besancenot anarchiste d'ultra-gauche anticlérical, pas orthodoxe pour un bal, anti-sarkozofioniste, post-Che Guevaresque, et j'en passe. Te voilà officiellement soutien d'antisémite, voire antisémite toi-même, mais ça, c'était sûrement déjà le cas. Quoi qu'il en soit, j'espère vachement te retrouver à la rentrée. Mais, comme dirait l'autre, ça pue du fion. Courage à tous, au revoir.
Daniel Mermet, bonjour. Martine Pruvot, je vous écoute plus ou moins fidèlement depuis les années 70. Je voudrais réagir au sujet de l'émission d'aujourd'hui sur la famille de Wavrin. Je suis originaire du Nord. Malheureusement, je ne fais pas partie des grandes familles. Ceci dit, les grandes familles ont quand même fait vivre plus ou moins, c'est vrai, plus ou moins bien de beaucoup de gens dans le Nord. Mais, monsieur Daniel Mermet, je voulais juste savoir une chose. À titre personnel, avez-vous déjà signé des cautions? Vous êtes-vous déjà engagé financièrement pour l'avenir de votre entreprise et par là même de vos salariés? Merci, au revoir.
Oui, bonjour, c'est Bruno de Toulouse. Je réagis à l'émission d'aujourd'hui sur les patrons et sur le tribunal pour enfants qui se passe dans une école. J'ai jamais appelé, je me suis dit que ça servait à rien, que j'étais d'accord souvent avec vous, mais là, comme je suis deux fois d'accord, que la dernière fois j'ai quand même fait deux fois un bond énorme sur mon canapé en me disant « mais comment on peut passer ça à la télé et que les gens ne réagissent pas ?» Et je pense que votre émission devrait faire l'ouverture du 20h ou le film de ce monsieur journaliste, réalisateur sur les deux Wavrin. En tout cas, en tant qu'enseignant qui travaille en ZEP depuis 25 ans, je peux dire que ce genre de tribunal pour enfants, malheureusement, existe aussi dans les écoles primaires, que les enseignants, pour un oui, pour un non, veulent porter plainte pour un gamin qui parle pas très bien, qui est un peu violent, en oubliant d'essayer de comprendre pourquoi cette violence, pourquoi ces insultes, pourquoi ces difficultés à vivre dans cette jungle que sont devenues les cités et les ZEP. Donc, merci d'ouvrir les yeux à tout le monde, enfin, en tout cas, ceux qui vous écoutent, et puis, bon vent, bonne continuation. C'était Bruno de Toulouse.
Bonjour à toute l'équipe de La Bastille, j'y suis. Je viens d'écouter votre émission et vous semblez vous offusquer du fait qu'un élève soit puni parce qu'il a commis une violence sur un enseignant. Mais alors que ce soit condamné par de la prison, certes, c'est un petit peu fort, mais allez demander aussi à certains enseignants dans des quartiers populaires comment ça se passe, et sans compter que parfois les enseignants n'ont plus le droit de dire quoi que ce soit à certains parents, et c'est de plus en plus difficile pour certains de ces enseignants-là. Donc allez leur demander comment ça se passe dans ces quartiers-là. Aussi, allez leur demander cela. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir.
Merci pour ces messages. Suite à l'émission d'hier autour du film de Gilles Balbastre, Fortune et Infortune, des familles du Nord qui effectivement finit avec cette séquence assez surprenante dans un établissement d'un quartier déshérité. On a le proviseur, on a un policier qui gronde un enfant. C'est plus que gronder un enfant, c'est extrêmement violent face effectivement à un acte un peu insignifiant de ce gamin, et c'est très violent envers ce gosse, alors qu'on vient d'assister à cette lutte entre les fortunés et les infortunés du nord de la France au temps des filatures. Et on voit vraiment ces luttes terribles, cette violence sociale terrible, et puis le film finit de cette façon. Voilà, et évidemment ça n'a pas manqué de vous secouer et de valoir au répondeur de la bas si j'y suis quelques échauffements, mais c'est tout à fait passionnant, c'est des vrais sujets, tout comme le livre de Bertrand Roté, Le Braque, 3 ans de prison, qui vient de sortir au Seuil, et qui reprend ça. Le Braque, vous vous souvenez, c'est La Guerre des Boutons, et on se souvient de ce livre et de ce film formidable d'Yves Robert, sauf qu'aujourd'hui, à en croire l'enquête menée par Bertrand Roté dans son bouquin, le braque en question, ce serait 3 ans de prison. C'est au moins ce à quoi il arrive au terme d'une enquête auprès d'éducateurs, de policiers, de juges d'enfants, etc. Voilà, c'était le sujet d'hier et ça vous a passionné. Aujourd'hui, quelque chose de tout à fait différent, quelque chose que devrait dire quelqu'un, et je devrais même dire quelqu'une, une auditrice, qui il y a quelque temps a laissé un message surprenant et saisissant dans la boîte vocale de là-bas si j'y suis. On a voulu savoir avec François Ruffin qui elle était, et puis voilà, on va passer cette heure avec cette femme surprenante qui va donner tout son sens à l'expression « ceux qui vivent sont ceux qui luttent ». Et vous allez voir que d'ici à 16h, ces mots, c'est attribué à Victor Hugo, je ne sais pas si c'est bien vrai, tant mieux d'ailleurs, pourquoi pas, tant mieux, disons-nous ça, vont prendre tout leur sens dans cette heure que nous allons passer ensemble. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis précisément, au 01 56 40 37 37.
Salut les AMG de l'Isère. Le prochain repère du Sabot des Muses de Saint-Bernard-du-Touvet aura lieu le vendredi 19 à 18h30. On y parlera de Chomsky, de la manipulation de l'opinion, des élections européennes, de la politique en France. Pour le 10 juillet et le 7 août, c'est les vacances et c'est Lola qui vous en parle.
Venez chanter, rigoler, parler, compter. On vous attend.
Mardi 23 juin, dès 18h, formons une chaîne humaine pour protéger notre hôpital. Des bus gratuits partiront de toutes ces communes. Auriol, Belcodène, Cadolive, Cuges-les-Pins, La Bouillabisse, La Destrousse, La Penne-sur-Yvonne, Paypin, Roquevert, Saint-Zachary, Savorin. Pour Cassis, téléphonez à la mutuelle au 04 42 98 81 58 pour réserver votre place. Ça vous évitera de prendre la voiture. Ne vous abstenez pas comme pour vos élections européennes. Salut, Michel de Cassis.
Bonjour Daniel. Aujourd'hui, épreuve de philo du bac. Je vais utiliser et philosopher un petit peu en empruntant des maximes. Alors, et je m'adresse à Monsieur Antoine, Ernest Antoine Sellière, et je lui dis « L'argent ne fait pas le bonheur, alors rendez-le ». Je dis à Sarko, d'Étienne de la Boétie, « Tout pouvoir ne vit que de ceux qui s'y résignent ». Et je dis au peuple français une maxime de Talleyrand qui dit « Les mécontents, ce sont les pauvres qui réfléchissent ». Voilà, j'espère que ça fera méditer un petit peu nos ménages. C'est Anne d'Épinal. Merci et bonne journée.
Thank you. Ça, ça sonne.
C'est la quiche.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec François Ruffin et Jacqueline Lortiwa. Les minutes d'essentiel.
Flight number 2, arriving from New York.
Bonjour, je m'appelle Jacqueline, j'appelle de Cergy. C'était pour vous dire que je vous aime. Je suis greffée de toute la colonne vertébrale, du cou jusqu'aux fesses. Je suis tout en métal et il me reste 7 vertèbres de libre. Les cervicales, donc mon cerveau fonctionne parfaitement. Et si mon corps est scaphandre, ma tête est restée papillon. Et donc je vous écoute très souvent à 15h, je rigole. Quand vous êtes relégué à cette heure de non-écoute et que vous avez réussi à continuer à avoir autant d'auditeurs, j'adore Daniel Mermet, j'adore les interviews de François Ruffin, j'adore les autres aussi, les mecs du monde diplo, les messages des AMG, je rigole toute seule en vous entendant. Vous êtes ma morphine, mes opiacés. Grâce à vous, vous faites passer d'une échelle de douleur de 7-8 à 3-4. Voilà, donc c'était une déclaration d'amour. Mon capital de séduction ayant assez fortement diminué et étant rangé des voitures, je peux me permettre d'utiliser ce mot fort avec une certaine dérision. Ma demande est la suivante. J'ai des choses à dire sur la santé, sur la réforme Fillon, sur l'hôpital 2007. Bon, j'en ai pas pour longtemps et donc j'ai envie de me faire plaisir. Si je pouvais dire le plus grand mal de cette droite ridicule, de ce Fillon grotesque, tout le mal que je pense sur la façon dont on fossoie la sécu. Donc voilà, désolé, je sais pas, j'avais dit que je pleurerais pas, mais ben, c'est comme ça, c'est la vie.
Pascal à Brest, où il fait un temps absolument magnifique aujourd'hui, c'est assez rare pour être souligné. Je t'appelais pour te suggérer de refaire un florilège des messages d'auditeurs d'AMG. Ce qui me fait penser à ça, c'est celui que j'ai entendu tout simplement hier, de cette auditrice dont je ne me souviens pas du prénom, malheureusement, je n'ai pas réécouté depuis, je ne sais pas si d'ailleurs elle le mentionne, les cervicales qui ne fonctionnent plus. Ce message, bien sûr, sera à mettre en exergue de ce florilège, tant il est bouleversant. Je pense qu'il y a des fois comme ça où tu, en entendant ce type de message, tu dois te dire, en fait, mes 20 années de là-bas si j'y suis n'ont pas été vaines. Rien qu'un message comme ça suffit à justifier 20 années de là-bas si j'y suis. Merci à toi. Salut Daniel. Ciao.
Si j'avais su que je t'aimais tant, je t'aurais aimé davantage. C'est beau, hein? Oh, qu'est-ce que c'est beau. Si seulement tu pouvais me dire que je te manque. Ça aussi, c'est beau, hein? Oh, c'est beau. Mais à qui ça s'adresse? Ça s'adresse à la bien-aimée ou bien-aimé? Eh ben là, oui, c'est le cas aussi, mais ça s'adresse carrément à la vie. Si j'avais su que je t'aimais tant, je t'aurais aimé davantage. La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Eh oui, aujourd'hui, c'est le jour des banalités. On enfonce des portes ouvertes. Sauf qu'on oublie de se demander sur quoi ouvrent les portes ouvertes, les portes qui sont déjà ouvertes. On va voir que ça ouvre aujourd'hui là-dessus, sur la vie, sur le handicap. Vous avez compris, Jacqueline est assez esquintée, elle a un handicap qui a transformé son corps en scaphandre, dit-elle, mais vous allez voir, la tête, c'est celle d'un papillon. Et pourquoi elle a une tête de papillon, cette Jacqueline? Parce que c'est une lutteuse, elle a jamais baissé les bras. Et dos au mur, elle continue de se battre. Et c'est notre histoire à tous, bien sûr. On ressemble tous à Jacqueline. Parce qu'évidemment, elle, elle est esquintée. Et nous pas. Vous êtes sûr qu'on n'est pas un peu esquintés? Vous êtes sûr qu'on n'est pas tous, au fond, un peu handicapés? Non? Vous avez déjà essayé de voler? Moi, j'ai essayé, je me suis rétamé. J'ai essayé de... Au fond de la mer, je tiens pas longtemps. Donc on n'est pas complet, on est mutilé, il nous manque quelque chose. Vivre, c'est vivre un manque, c'est ce que fait Jacqueline. Mais elle se bat. Et c'est... Vous allez voir, et vous allez... passer cette heure avec elle et François Ruffin qui est allé la voir. Et ce qu'elle a inventé aussi, elle a inventé les minutes essentielles. Les minutes d'essentiel. Pas mal, l'essentiel. Et bien je crois que cette heure, grâce à elle, grâce à Jacqueline, est une heure essentielle.
Bonjour.
Tu as les mains dans la
pâte. Je vous serre le poignet.
Mais justement, je pensais préparer une pâte en votre attention. Est-ce que je... Mon dos est complètement cassé, mais ce que j'appelle les périphériques, c'est les bras et les jambes, fonctionnent parfaitement.
Donc, pour préparer une pâte, il y a les mademoiselles... Il révise Nicolas Machiavel et Thomas Hobbes pour son bachot. Et alors le dictionnaire est ouvert à la page bonheur.
Voilà, on est chez Jacqueline Lortiwa, donc. Et vous avez compris, elle va nous expliquer tout. C'est elle qui a voulu qu'on vienne la voir, sa vie, ce qui lui est arrivé, et la façon dont elle se bat, elle continue inlassablement de se battre, et je vous le disais, ce qu'elle a inventé, les minutes d'essentiel, elle appelle ça les minutes d'essentiel, parce qu'elle dit, il y a des choses dont on parle jamais, le rapport à la vie, à la mort, à la souffrance, à la maladie, et voilà, elle s'est dit, mais à partir de ce constat, eh bien, il faut faire des minutes d'essentiel. C'est ce dont elle va nous parler, mais ça va passer par... vous allez voir, suivez la conversation, et puis il faut qu'on ait un œil quand même sur la quiche.
Jacqueline, là on se trouve chez vous, à Cergy. Donc on a terminé de préparer la quiche Lorraine. On allait chercher du laurier dans le jardin. On s'est fait livrer les courses manquantes par le Franprix du coin. Aujourd'hui, vous portez un corset en plastique qui enserre votre poitrine au-dessus d'un chemisier bleu. Vous habitez dans une maison qui est confortable. Il y a un piano. Il y a une cuisine avec un four hyper compliqué qu'on ne comprend pas comment le programmer. Mais qui vous étiez donc avant d'avoir des gros soucis de santé?
J'ai eu une ancienne splendeur, j'ai travaillé, j'ai été spécialiste sur les questions d'emploi et de travail pendant 40 ans. À une époque, on m'a d'ailleurs refusé mon sujet de thèse parce que mon professeur trouvait que c'était pas un sujet, l'emploi, dans les années 70, parce que ça marchait tout seul. Hein. Il faut bien savoir qu'à l'époque, la NPE... dans les années, quand elle a été créée en 67 et dans les années 70, elle a été créée pour résoudre les problèmes de main-d'œuvre et les gens racontaient qu'ils allaient recruter de la main-d'œuvre sur les quais de métro. Et la désorganisation industrielle, c'était l'écoute de l'entreprise. Et moi, ce qu'on m'avait demandé de faire en tant que conseil, eh ben, c'était de chercher comment l'entreprise qui se décentralisait allait trouver les meilleures main-d'œuvre, les meilleurs terrains, les meilleures dessertes pour leurs produits. Etc.
La décentralisation, c'est un moment où on découvre que finalement Paris devient trop petit, trop coûteux aussi, à la fois parce qu'il y a un manque de main-d'œuvre et donc la main-d'œuvre doit être plus payée, et aussi en locaux. Donc à ce moment-là, on se décide de les envoyer partout en France. Et là, vous, dans ce cadre-là, vous devenez une alliée du grand capital alors.
Ah, mais alors justement, moi, j'ai passé mon temps à essayer de défendre le point de vue du travail.
Là, vous enlevez votre corset.
J'enlève mon corset parce que le fait de parler avec vous et de me sentir reconnue dans ce que je fais, et de parler sur quelque chose qui me passionne et qui me bouleverse toujours autant, du coup je sens plus la douleur et je voilà. Non, on est en plein dans les minutes d'essentiel. C'est-à-dire, on parle de quelque chose de tellement essentiel que j'oublie complètement que j'ai mal. Donc voilà. Et donc, la décentralisation industrielle, rien n'était ni trop beau ni trop grand pour les entreprises. Alors, vous voulez des locaux, vous voulez des desserts, vous voulez des tournées à gauche pour camions, vous voulez ceci, vous voulez cela. Et actuellement, ce qu'on fait justement, quand on donne du fric aux entreprises, les dispenses de charges sociales, etc., on considère que c'est l'entreprise qui crée l'emploi. Non.
Donc là, vous étiez comme ça. Alors, avant votre maladie, vous étiez comme ça tout le temps, c'est-à-dire râleuse, gauchiste
Absolument. Et pourtant, j'ai tout le temps trouvé du travail.
La quiche, elle ne va pas brûler, là
Normalement, elle sonne. Elle sonne quand elle est prête.
On disait, vous étiez râleuse, gauchiste. Qu'est-ce qui s'est passé pour que d'un seul coup, vous portiez des corsets Ça va pas, là. Vous avez mal?
Non, mais c'est pas grave.
Bon, on peut arrêter.
C'est pas grave. Et donc, Non, j'ai un élancement, mais c'est pas grave.
Mais si, mais arrêtons deux minutes.
Non, je vais prendre un calmant. Et donc,
Vas-y.
Je prends ça.
Prenez ça tranquillement, vous lavez un dos ?
Non, il faut le mettre sous la langue, ça fait plus d'effet. Donc voilà. Donc.
Attendez.
Oui, c'est des espèces de pics de douleur.
Vous voulez un verre d'eau ?
Non, c'est bon. Donc, je reprends mon histoire. Si je suis...
Vous avez encore mal?
Émue, c'est pas seulement parce que j'ai mal. C'est aussi parce que je suis émue de cette question. Parce que c'est tout mon parcours. C'est-à-dire que... Il y a des moments où je souffre tellement que j'ai envie de me flinguer. Et en fait, je tiens uniquement... Parce que les gens, ils comptent sur moi. Comme je me suis fait opérer à 58 ans, c'était beaucoup trop tard. C'est trop tard et j'ai plein d'effets secondaires. C'est très difficile. Et en fait, je galère. Mais, donc à certains moments, je me dis que mon opération, elle a raté. Et je tiens parce que... Je tiens beaucoup à ce que je serve. Et j'ai appris dans ma vie militante que la personne est un expert d'usage. C'est-à-dire que je me retrouve avec des gens qui sont dans le technique, dans l'administratif, avec des chirurgiens qui dépècent, qui coupent, qui outillent, avec des médecins... de médecine générale qui connaissent rien aux choses. J'ai des choses complexes. J'ai 5 sortes de douleurs. Donc chacun, je suis découpé en tranches. Chacun s'occupe de sa spécialité. Personne ne regarde les choses transversalement. Donc je ne suis pas une personne, je suis un peu à la cobaye. Et donc moi, j'essaye de faire la globalisation et de revendiquer une expertise qui est l'expertise d'usage. C'est-à-dire, moi, j'ai écrit à mon chirurgien, c'est vous qui m'avez posé mes prothèses, mais c'est moi qui les vis. Donc moi, je suis d'égal à égal avec vous. Et en fait, mon chirurgien, il fait des visites chirurgicales, il regarde si je vais bien sur le plan chirurgical, il regarde si le matériel, il n'a pas bougé, et il envoie un compte-rendu chirurgical à mon médecin traitant, et jamais à moi. Donc j'ai pris l'habitude, tous les 6 mois, de lui envoyer une lettre, un compte-rendu d'expertise d'usage, moi, en tant qu'expert, ce que je pense de ce que je vis. Et je lui explique ma galère. Alors je lui ai envoyé récemment mon dernier compte-rendu d'expertise d'usage, et il n'a pas répondu.
Et auparavant, il répondait?
Il n'a jamais répondu. Mais par contre, je l'ai mis sur Internet. Donc, il suffit de faire www. www.ressources-solidaire.org. Ça, ça sonne.
C'est la quiche.
Alors attendez, on va voir si c'est ici. Ah, elle est là. C'est impeccable.
Elle est cuite.
Ah oui. Est-ce que vous pouvez la prendre parce que c'est un peu bas pour vous?
Bien sûr. Peut-être un peu pas cuite quand même. Hein.
Vous pouvez la tester avec un couteau.
Peut-être un tout petit peu mou encore.
Ouais, donc un quart d'heure de plus.
10 minutes ici.
Ouais. Vous appuyez jusqu'à ce que ça soit en
Comment ça s'est, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie pour que vous tombiez malade ou...
Bah, disons que j'avais des problèmes de dos depuis l'âge de 12 ans. J'ai été soignée n'importe comment, de façon extrêmement barbare. J'ai été pendue, étirée, plâtrée, corsetée et tout ça. Et à 19 ans, j'ai fait un déni, j'ai tout cassé. J'ai cassé ma coquille à coups de marteau. Une coquille, c'est un corset plâtré pour dormir la nuit. Et j'ai brûlé mon corset dans la cuisine. Et puis après, je me suis mariée, j'ai fait des enfants, j'ai milité et j'ai oublié tout ça. J'ai fait un déni. Sauf que j'ai été rattrapée vers la cinquantaine où... tout doucement, la maladie, insidieusement, s'aggravait.
La maladie, c'est quoi? C'est une scoliose?
Oui, c'est ça, c'est une scoliose. Et à un moment donné, je prenais un degré par an. Puis à un moment donné, c'est devenu un écrasement thoracique.
Un degré par an, c'est-à-dire que tous les ans, vous courbiez dans un sens d'un degré?
Voilà.
Dans quel sens, alors?
Je faisais un S. Donc, c'est une maladie de fille. Hein. Donc, les scolioses sont idiopathiques, dites par la médecine, c'est-à-dire sans cause. Et en fait, il y a certainement des causes, puisque c'est une maladie à 90% de filles. Il y a certainement des raisons psychologiques. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est une période assez difficile pour les femmes qui s'appelle la ménopause, conjuguée à un chagrin personnel qui était la perte d'un enfant, qui m'a fait perdre 10 degrés, prendre 10 degrés de courbure en un an. En un an, j'ai vieilli 10 ans. La défaite de la gauche, et j'étais très très engagée, et là j'étais rentrée dans le cabinet de Dominique Voynet pour monter le programme Emploi Jeune, puis après je suis allée chez Martine Aubry, chez Elisabeth Guigou, puis chez Guy Asquette à l'économie solidaire.
La défaite de la gauche en 2002 alors?
En 2002, tout s'est effondré, moi j'ai dit je reste, je sauve mes emplois. On était deux à faire ça, la première, elle avait un programme pour l'emploi des femmes. Elle est partie à l'hôpital en même temps que moi, avec un cancer du sein, et maintenant elle est décédée. Et en fait, si vous voulez, je m'occupais d'un programme d'économie solidaire. Et donc, il y a eu un harcèlement moral pas possible. On nous a fait chier, on nous a fait payer tout notre engagement. Mais moi, j'ai été à Bruxelles négocier des fonds sociaux européens. Et du coup, je suis passée par la tête du ministre pour sauver les emplois. Et donc, ça s'est payé de façon très grave. C'est-à-dire qu'à la fin, mon chef qui me faisait chier tous les jours et qui était absolument intenable, il n'osait même plus. À la fin, j'étais tellement pliée en deux. J'avais les dernières côtes qui frottaient sur l'os de la hanche. J'étais comme ça. Je tenais plus debout.
Alors là, on se lève pour aller voir parce qu'il y a, la quiche qui, qui va être
donc
cuite.
Donc on peut peut-être la sortir et la laisser un peu refroidir. La galère, c'est que j'étais tellement pliée et tellement abîmée que plus personne ne voulait m'opérer. Donc je suis allée voir les 7 plus grands chirurgiens de France. Ils ont tous refusé. Puis j'ai vu un dernier chirurgien qui m'a dit « Ah, moi je veux bien, mais à 3 conditions. » Alors, vous avez un surpoids, évidemment. comme je mesurais 1m78 et j'étais descendu à 1m63, j'avais gardé mon poids, donc c'était plus du tout valable, puisque j'avais perdu 18 cm. Donc j'avais 10 kg de trop. Vous maigrissez. Bon. Et ensuite, vous retrouvez de la verticalité, parce que 170, c'est pas possible. Et vous récupérez de la capacité thoracique, parce qu'avec un 6, c'est impossible. Bon. Comme c'était le seul qui m'avait dit oui, que tous les autres m'avaient dit non, je me dis bon, objectif, j'y vais. Et puis à rentrer chez moi, je me dis mais comment je fais pour récupérer de la respiration? Comment je fais? Comme j'aime beaucoup Cergy, que je suis dans un endroit magnifique, et là il y a une très grande descente de l'Oise, qui s'appelle l'Axe Majeur, il y a 376 marches.
Pour aller vers le lac là?
Pour aller vers le lac.
Parce que là derrière chez vous, on voit c'est hyper vert.
Je vais monter les marches. Et je vais essayer de récupérer de la respiration sur chaque marche. Donc avec un corset, deux cannes, le matin parce que le soir j'étais paralysée, parce que j'avais le frottement costo-iliaque qui m'empêchait de marcher. Et puis tous les matins, voilà, je me suis foutu au bas des marches et puis j'ai monté. Voilà, et je mettais 2 heures. Et alors en fait c'est un parcours sportif. Alors vous avez une communauté de Maliennes qui est pas loin, de Maliens qui sont pas loin. Alors vous avez des malabars de 2 mètres de haut qui font leur truc sportif et tout, et qui passaient, qui traçaient, et puis moi j'étais là avec mes cannes, mon corset, j'étais là 2 heures et tout, puis eux traçaient comme des bêtes. Et puis au bout de 6 mois ils me connaissaient, ils me disaient ça va Jacqueline, ça va aujourd'hui, Et à la fin, je mettais 20 minutes. Donc je téléphone au chirurgien. Je dis, bon, ben, ça y est. Vous m'avez fixé 3 objectifs. Je prends un rendez-vous. J'arrive. Soufflé dans le spiromètre. 2,25. Alors le médecin dit, non, l'appareil n'est pas remis à zéro. Ramène à zéro l'appareil. Je souffle. 2,25. Je me pèse, moins 10 kilos. Je mesure la flèche avant, 95. Donc c'était pas merveilleux, mais c'était mieux que 170. Donc le mec regarde son assistant. Puis il dit, mais vous êtes opérable alors? Puis je lis dans ses yeux qu'en fait il m'avait fixé une barre impossible, c'est-à-dire qu'il avait été moins méchant que les autres, c'est-à-dire qu'il n'avait pas osé me dire non. Mais il était sûr que j'y arriverais pas. Alors je le regarde, puis je lui dis, mais vous êtes pire que les autres. Et puis je lui dis, c'était sûr que j'y arriverais pas. Alors il a dit, mais oui, je pensais que j'y arriverais pas. Vous n'avez pas osé me dire non. Alors je lui dis, mais je le regarde dans les yeux, puis je lui dis, mais vous savez pas ce que c'est qu'une militante? Alors le mec, il me dit, non, je sais pas ce que c'est qu'une militante. Mais je vais en avoir besoin. Parce que je vais vous faire un truc que j'ai jamais fait pour personne. Je vais vous faire 3 opérations différentes, mais j'ai jamais fait 3 hein, sur la même personne. Vous allez en baver comme un turc. Et j'aurai besoin que vous... Et je le fais parce que vous êtes militante. Si vous n'étiez pas militante, je vous ferai pas. Ben, je m'étais pas trompé.
À la quiche, alors.
Jacqueline, elle s'appelle Jacqueline Lortois, vous avez compris, c'est une auditrice. Elle a laissé un jour un message sur le répondeur de là-bas si j'y suis. Et puis, eh ben voilà, on est allé la voir. François Ruffin est allé la voir. Je vous donnerai tout à l'heure la façon de la trouver, de trouver son blog. Je peux vous le dire tout de suite si vous restez pas jusqu'au bout. C'est www.ressources au pluriel solidaire au pluriel .org. www.ressources-solidaire.org. Et puis là, vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre sur la droite de la page et vous accédez au blog de Jacqueline. Et là, elle vous expliquera ce que c'est que ces minutes d'essentiel. Mais elle va peut-être pouvoir nous l'expliquer maintenant.
Là, vous sortez des radios.
Je sors des radios pour montrer un peu mon malheur. Et donc voilà, et lorsque le pointillé que vous voyez là, c'est ce que les c'est le dos. Les chirurgiens ont repoussé mon dos jusque là, c'est-à-dire ça, c'est ce que je suis devenue.
Donc voilà. ils ont repoussé la colonne vertébrale.
J'ai perdu 20 cm de tour de taille. Je suis passée du 56 au 42.
C'est un sacré régime à 26 ans alors.
Ma fille a été obligée à sortir de l'hôpital de reprendre tous mes pantalons avec des élastiques et des épingles douces.
Donc on a repoussé votre colonne vertébrale de 5 à 10 cm à l'intérieur. Alors. Voilà. Donc il y a deux tiges métalliques verticales. Et il y a des tas de vis.
Il y a une forêt de vis. Et alors, c'est à l'échelle 1. Donc, c'est les vraies grandeurs.
Putain, elles sont immenses, vos vis.
Mais oui.
Alors, là, vous écrivez que votre corps a été malmené, pendu, ouvert, étiré, scié, percé, vissé. Enfin, c'était Castorama.
Oui. Quand on est opéré, qu'on ne peut plus bouger, quand on est en réanimation, il y a la souffrance, il y a évidemment, mais on est sous morphine, hein, donc on est complètement stone. Et donc, ça va. Le plus difficile, c'est le temps. Alors, heureusement, j'étais installée dans une très grande pièce qui dominait la mer. Alors, j'ai essayé de.
C'est à Berck-sur-Plage, c'est ça?
À Berck-sur-Mer, oui. Donc, les fenêtres sont ouvertes. On peut pas dormir, évidemment. Et il y a l'aurore, il y a les couleurs. Donc, bien sûr, on ne voit pas la mer, mais on voit des nuages et on voit des mouettes qui traversent le paysage et on voit les couleurs. Donc, on entend la marée haute et la marée basse, parce qu'on se branche à la nature. Parce que quand on est, soi-disant, un légume, on se relie au cosmos, on s'accroche au vivant, à la nature et au cosmos. J'étais comme un coq en pâte à Berck-sur-Mer. Le problème, c'est que j'ai subi ce qu'on appelle les pôles d'excellence. Et donc, à Berck-sur-Mer, la chirurgie était remarquable. Hein, c'est la meilleure chirurgie du rachis de toute l'Europe. Donc, on a gardé la chirurgie. Par contre, on a fermé tout le reste. Donc, autrefois, vous aviez ce qu'on appelait une plateforme de soins. On entrait malade. On était retapé. Il y a une période difficile qui prend 4 mois pendant les prises de greffe. Il ne faut pas bouger. Donc, à ce moment-là, il faut rester immobile. Et puis après, on passe en rééducation fonctionnelle. Et au bout d'une dizaine de mois, d'un an, on est bon pour le service. Là, on a supprimé la plateforme de soins, on a gardé que la chirurgie. Et donc, j'ai été remarquablement soigné. Et puis après, coup de pied au cul, démerdez-vous pour trouver la suite de la chaîne de soins. J'ai été transféré à 11 novembre. J'ai vu débarquer, alors que moi, je suis allongé, une ambulance qui est arrivée pour un transport assis. Donc, je lui ai dit, non, ça va pas, moi, je suis allongé. Donc, je me suis retournée dans ma chambre. Comme je ne peux pas mettre mes chaussures, parce que je ne peux pas me pencher, j'avais mes chaussures aux pieds. Mon lit avait été défait. Je me suis retrouvée sur une chaise en plastique, sans bouffer, sans médicaments, à attendre qu'une ambulance couchée vienne me rechercher. Donc, je suis arrivée là-bas, dans une maison de repos. Alors, c'est ça, c'est là où j'ai un gros sur la patate par rapport à la sécu. C'est que comme, si vous voulez, quand vous avez des prises de greffe qui prennent, des greffes qui doivent prendre, eh bien... vous bougez pas. Donc, on vous facture pas d'actes. Vous n'avez pas le droit de faire de kiné. Vous devez faire juste des petits exercices de mobilisation de votre, avec un carnet dans votre lit. Surtout pas de kiné intempestive. Donc, pas d'actes à facturer. Vos fils ont été retirés en chirurgie. Donc, vous n'avez pas d'infirmière. Donc, vous avez juste des soins pour vous laver les pieds, pour vous laver, des choses comme ça. Donc, on ne facture pas d'actes. Du coup, qu'est-ce qu'on m'a fait ? Eh bien, on m'a collé dans une maison de repos.
Et du coup, c'est comme on ne facture pas d'actes, ça ne rapporte pas à l'hôpital.
Donc, on vous colle dans une maison de repos. Et moi, j'étais le seul cas lourd. Et donc, moi, je me suis retrouvée avec des effets secondaires du topalgique et je me suis mis à avoir des crises de ce qu'on appelle les vertiges de Ménière. Et donc, les vertiges de Ménière, c'est un truc absolument affreux où c'est des problèmes d'équilibre et d'oreille interne. Et donc, tout le paysage tourne, on perd l'équilibre, on a l'impression d'entrer dans un puits, dans un trou noir, on a l'impression qu'on va mourir la minute suivante. Je hurlais des heures et des heures dans mon lit. Or, dans une maison de repos, il n'y a pas de médecin à demeure, parce qu'on fait des économies. Donc le médecin arrivait de 17h à 19h. Donc moi, je suis arrivée un 11 novembre, c'était un samedi, sans médicaments, sans dossier. Et je suis restée à hurler samedi, dimanche, lundi. Et c'est lundi à 17h que le médecin m'a vue. Il y avait un gardien de nuit, parce qu'il n'y a pas d'infirmière la nuit dans une maison de repos. Donc le gardien de nuit m'a donné de la glace pendant la nuit. Or, quand vous avez des douleurs musculaires, il faut du chaud. Après, ça a duré comme ça jusqu'au lundi soir, donc 3 jours d'enfer. C'était à se flinguer. Et c'est là que j'ai appelé ma copine Chao Sauvage, qui est une suggestopédeute. Si vous voulez, elle met les gens dans un état de bien-être, elle active des souvenirs heureux.
Alors, quels sont vos souvenirs heureux ?
Alors voilà, donc mes souvenirs heureux, c'est des souvenirs d'enfance, parce que ma grand-mère avait une grande propriété magnifique. Et donc c'est le pré de la Ganderie, avec des chevaux, avec des moutons, des sonnailles, et un petit rubisseau où on pêche à la main des écrevisses transparentes qu'on voit avec des petites têtes d'épingle. Et donc j'ai écrit un texte sur ce paysage-là, pour essayer de sublimer cette douleur. Mais là, j'avais un problème très précis, qui était que j'avais des cristaux dans l'oreille interne, que je ne pouvais pas les traiter par manipulation, et qu'il fallait absolument que ces cristaux soient supprimés pour arrêter ces vertiges de menhir. Donc, j'avais une grand-mère musicienne, concertiste, qui s'appelait Odile. J'ai donné à toute une série de parties de mon corps des noms. Donc j'ai donné à mon oreille interne le nom de Odile et je me suis fait la liste de toutes les musiques agréables que j'avais entendues dans ma vie et mentalement je me suis passé des musiques. Donc j'ai écrit une lettre à Odile.
Ça, c'est donc vous écrivez « Chère oreille, chère Odile, tu te souviens des sons qui ont baigné ton enfance dans les années 50, quand je dormais dans la salle à manger de mon grand-mère, parce que chez nous, il y avait peu de place. Quand elle me croyait endormie, elle s'installait à son piano Erard, acheté en 1900, et elle jouait tout doucement des nocturnes de Chopin, une berceuse de forêt, un aria de Bach, des romances sans paroles de Mendelssohn, avec une délicatesse et une sensibilité telle que je n'ai jamais pu écouter ces morceaux en entier, joués par quelqu'un d'autre. »
Voilà. Et donc, je me suis passé toutes mes musiques préférées.
Et donc, vous avez un grand iPod dans votre tête, vous.
Et donc, voilà. Et donc, en 2 mois, j'ai fait dissoudre les cristaux. J'y suis arrivée. Et alors, donc, ça m'a donné l'idée de faire toutes sortes d'autres choses. Du coup, j'ai donné des noms à mes vertèbres et je leur ai écrit des lettres. J'avais mal en L5. Pas difficile.
L5, ça veut dire quoi ?
C'est la 5e lombaire, c'est la dernière, c'est la plus basse. Alors, par exemple, j'avais mal en L5, pas de problème, j'écrivais une lettre à Louise. Donc L5, c'est Louise. Chère Louise, tu es la plus fatiguée, tu es la plus vieille, etc. Mais remercie-moi, chère Louise, je t'ai outillée, tu as maintenant des belles tiges, des belles colonnes de part et d'autre de toi, tu as un beau disque tout neuf alors que tu avais une feuille de papier à cigarette. Et Louise, ben lâche-moi les baskets, maintenant Louise, tu peux te reposer, pose tes valises, finalement, tu n'as plus besoin de me faire mal. Et Louise se calmait, voilà.
Pour faire face à la douleur, vous avez testé à peu près tous les rayons des pharmacies, mais finalement, vous avez trouvé notre méthode.
C'était un samedi où les choses allaient de mal en pis et je pétais un câble et j'étais au bord du suicide. J'ai appelé ma copine Thérèse, une féministe qui a 80 ans aujourd'hui, qui habite Montreuil. Alors que moi, j'avais 20 ans en 68, donc moi j'étais couille croisée plétex.
Couille croisée plétex, ça veut dire quoi ça?
ça fait allusion à une publicité de soutien-gorge plétex. C'est-à-dire ça s'appelait cœur croisé plétex. C'était un soutien-gorge qui se croisait devant les nichons. Et Coluche l'avait transformé en couille croisée plétex, qui indiquait le mec qui devait serrer la ceinture parce qu'il draguait une nana, et puis tout d'un coup, finalement, elle avait beau avoir une mini-jupe, un duc, et être très libérée, quand il s'agissait de passer à l'action, il n'y avait plus personne. Voilà.
Et donc ça, c'était vous à 20 ans alors.
J'étais timorée, très peu libérée, et très conventionnelle, et en fait, je remercie les femmes de 40 en 68, qui eux accrochaient leur soutien-gorge aux grilles du Luxembourg. Et donc Thérèse Claire, à cause de ça, je la remercie. Alors elle a pété un câble en 68 et elle a abandonné tout et elle a décidé de s'occuper d'elle-même.
Elle a abandonné tout, c'est-à-dire ?
Elle a abandonné le mari et elle travaillait dans un atelier de couture du sentier. Elle a tout plaqué.
Et les enfants aussi ?
Non, elle a gardé ses 4 enfants et elle a décidé de s'occuper d'elle-même. Et comme elle prétendait qu'elle ne savait rien faire, elle a décidé de faire de la cuisine et de faire la fête chez elle, à Montreuil, et d'inviter des gens. Alors au début, elle avait 10 ou 20 personnes et à la fin, elle louait la bourse du travail de Montreuil et ça lui est arrivé de faire des choses de 1000 personnes. Et donc Thérèse m'a tout appris du féminisme, m'a aussi appris tout de la sexualité, parce qu'elle faisait des ateliers de sexualité dans son appartement, et elle vénérait la déesse Aphrodite. Et en fait, quand ce fameux samedi du mois de mars, je me sentais extrêmement mal, j'ai appelé Thérèse au secours en lui disant « j'en peux plus, j'en ai marre, je souffre trop ». Thérèse m'a dit « écoute, défends-toi et fais un appel ». Voilà. À la suite de ce coup de téléphone, j'ai réfléchi et je me suis dit « l'émission que j'aime le plus et que je préfère, c'est Daniel Mermet ». Je trouve que cette émission est géniale. Je trouve que c'est extraordinaire.
Faut pas en faire trop à ce moment-là.
Je me suis dit, je vais lancer, puisqu'il y a un répondeur sur France Inter, j'essaye. Donc j'ai envoyé un message d'amour. Ça a touché à certains Pascal. Donc Pascal m'a envoyé un message magnifique qui m'a complètement regonflé. Et donc ça m'a donné l'idée des histoires de minutes d'essentiel, parce que donc il a dit des choses essentielles, moi aussi. En fait, j'avais le sentiment d'avoir un peu raté mon opération, parce que il y a des moments où je doute beaucoup. Et c'est tellement difficile que...
Là, ce que je lis sur votre blog, d'accord ? Vous dites que vous décidez alors de compenser les médications par de l'affection et de la solidarité.
Oui.
En pratiquant chaque jour des minutes d'essentiel. Pendant 5 minutes, vous dites à votre interlocuteur, interlocutrice, pourquoi elle a été importante dans votre vie et comment. Pendant 5 ou 3 minutes, cette personne vous renvoie à l'ascenseur. Voilà. Donc c'est un massage, massage de l'âme réciproque, c'est ça?
Ouais, c'est exactement ça. Je vais aborder un sujet d'alcool. C'est la question de handicap et sexualité. Au bout d'un an d'hôpital, je me suis dit quand même, j'aimerais bien savoir si je fonctionne. Donc j'ai appelé un copain que je connais très très bien. Il disait, écoute, tu es la seule personne à qui je puisse demander ça. J'aimerais bien faire un essai, mais je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Donc, très gentiment, il est venu. Et ça a été une catastrophe. Le résumé est le suivant. Je ne peux pas bouger. Je sens rien. Et j'ai mal partout. Et pour le mec, c'est un calvaire. Je suis obligée de faire la position de l'étoile de mer. La position de l'étoile de mer, c'est la tête qui est toute droite. C'est Thérèse qui m'a appris ça. Et donc, les deux bras écartés, les deux jambes écartées et attendre que ça se passe. Parce qu'on ne peut pas bouger. Donc, j'ai fait un constat que c'était vraiment horrible et que comme j'avais vécu des choses suffisamment merveilleuses et suffisamment agréables avec des gens merveilleux, j'avais pas envie de vivre des choses médiocres et d'autre part, j'avais pas envie de gens d'offres compassionnelles. Parce que j'ai de temps en temps des offres compassionnelles et ça, j'en veux pas. Moralité, j'ai décidé de tout balayer et que c'était terminé.
Bon. Ça, c'est un message pour Pascal aussi, de Brest.
Ah oui, c'est un message pour Pascal à Brest. Et alors donc, j'ai décidé d'utiliser la méthode scaphandre des papillons. Parce que Jean-Dominique Bobby,
Jean-Dominique Bobby, c'est cet auteur qui était complètement handicapé, avait plus les moyens d'écrire, et écrivait en clignant ses paupières.
Et donc, il était à Berck-sur-Mer aussi. Il ne peut plus manger, il a des tuyaux partout. Et donc, dans un chapitre, il se fait des menus. Il se visualise des menus puisqu'il ne peut plus manger. Voilà. Et donc, moi, j'ai décidé de faire pareil. Et j'ai décidé de faire des menus avec mes bons souvenirs. Donc, je me suis fait une liste de bons moments que je visualise, et après je me suis dit, bon, est-ce que je peux, sans bouger mentalement, uniquement en visualisant les bons souvenirs, arriver à un orgasme ? J'ai mis un an avant d'y arriver. J'y suis arrivée, maintenant j'ai une vie sexuelle heureuse et tout à fait normale.
Bah, tout à fait normale, c'est peut-être pas ce qu'on pourrait dire.
Naturel, mettons. Et alors, je me suis dit, après, faut quand même que je prévienne les mecs qui figurent c'est à mes menus. Il faut quand même que je les prévienne, c'est la moindre des choses. Donc j'ai appelé, j'ai appelé les personnes qui figuraient à mes menus pour les prévenir. Ah, par exemple, j'ai gardé un très bon souvenir d'un gars qui, quand il faisait l'amour, il s'abandonnait complètement comme un enfant. Et il disait, comme une espèce de chanson qui scandait, que c'est bon de faire l'amour. Que c'est bon de faire l'amour. Donc là, j'ai gardé la bande-son, parce que je trouve ça vachement bien. Donc je me repasse la bande-son. j'ai quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, qui est un polytechnicien. Je lui ai dit que mon père étant scientifique, j'étais petite, il bossait les premières décimales de pi. Et donc, qu'à cela ne tienne, c'est le seul homme qui réussit à me faire faire un orgasme en me citant les 100 premières décimales de pi.
Comme et votre père aurait pu le faire.
Oui, oh non, certainement pas, attention. Donc voilà, ça c'est un exemple. Alors il y a un autre exemple, je connais un mec qui est très très bien du bas. Par contre, il fume comme un sapeur et il a les dents complètement gâtées. Donc j'ai pris le bas, j'ai enlevé le haut. Et le haut, j'ai mis quelqu'un d'autre qui avait de beaux yeux, changeant, vert et bleu et qui ressemblait un peu à mon lac et dans lequel j'aimais bien me baigner. Voilà.
Merci Jacqueline, je rappelle qu'elle s'appelle Jacqueline Lortois et vous pouvez trouver le site de l'association Ressources Solidaires en faisant www.ressources au pluriel ressources-solidaires au pluriel aussi.org www.ressources-solidaires. solidaire.org et c'est le site qui héberge, entre autres, le blog de Jacqueline. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique Mission là-bas, si vous pouvez réécouter cette émission et ce reportage qui était de François Ruffin. Vous pouvez également le retrouver sur là-bas.org, là-bas.org. À la technique aujourd'hui, Pierre Monsigny et Lydvine Caron, c'est Coy et Nguyen et Raphaël Moutet qui ont réalisé cette émission assistée de Charlotte Perry. Et Agnès Lebotte, quant à elle, attend vos messages. Répondeur de la base, si j'y suis, dont le numéro est le 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Il va être 16h sur France Inter. On se retrouve lundi à 15h pour la base, si j'y suis. Bonne fin de semaine à tous. Je vous laisse pour les infos avec Angélique Boin. Salut!